On poursuit ce débat avec l'agriculture. Selon la Chambre d'agriculture, 1600 agriculteurs professionnels dans les Alpes-de-Haute-Provence, dont une moitié d'éleveurs, un nombre d'installations qui reste stable, 200 chaque année. On va parler d'abord d'un sujet qui fâche énormément, c'est le loup. Hein. Le loup qui est aujourd'hui présent dans une quarantaine de départements. 106 meutes sont constituées, dont 17 dans les Hautes-Alpes, 20 dans les Alpes-d'Haute-Provence. C'est le département le plus peuplé de France, Jérémy.
Et un chiffre, depuis 2006, 483 loups ont été prélevés en France, 39 braconnés. Ce qui fait 522 le nombre de loups morts depuis 15 ans. Le Water, est-ce qu'il faut prélever plus de loups pour faire réduire la prédation sur les troupeaux ?
Moi, il me semble que la question est mal posée quand on part sur le taux. Pardon, c'était pas la vôtre, Jérémy. C'est la question en général. Elle est mal posée quand on part sur la question du taux de prélèvement. C'est-à-dire que il me semble que nous devons accompagner nos éleveurs, non pas seulement en indemnisant les pertes, mais en les amenant à trouver un modèle de cohabitation avec le loup.
Les éleveurs disent que c'est impossible.
Alors, pourtant, en Italie, c'est le cas, par exemple, et il y a des solutions qui sont trouvées.
Alors, comment on cohabite avec le loup ?
Eh bien, effectivement, il faut peut-être faire bifurquer le modèle d'élevage vers des choses qui soient moins intensives, avec des troupeaux moins importants, avec une estive organisée autrement. Il y a des propositions qui sont faites par la Confédération Paysanne qui me semblent particulièrement intéressantes de ce point de vue-là. Sur la question du taux de prélèvement, moi, il me semble que quand on dit accompagner les éleveurs, ça veut dire leur permettre de s'adapter à la présence du loup. Ça veut dire les accompagner également financièrement quand il y a des pertes.
C'est déjà le cas.
Mais c'est déjà le cas. Mais la première partie de ma réponse, non. Il n'y a pas une grande réflexion qui est portée là-dessus. Et la troisième chose, effectivement, c'est qu'il faut leur permettre de se défendre. Mais ce n'est pas une question de taux de prélèvement. Je crois que les copains de la Confédération Paysanne disaient à un moment, il faut que le loup puisse être là, mais il faut autoriser l'éleveur à faire des tirs d'effarouchement, etc.
C'est le cas.
C'est pas le cas partout.
Vous avez des tirs d'effarouchement, des tirs de défense, des tirs de prélèvement.
Voilà,
c'est encadré, donc, vous avez le cas déjà, c'est le cas.
Oui, non, mais ce que nous disons, c'est qu'il faut accompagner les éleveurs et qu'il faut leur permettre de s'adapter et de se défendre. Après, moi, on ne me fera pas dire qu'il faut abattre des loups et qu'il faut en abattre plus. Je trouve que c'est une question qui n'a pas de sens. Il faut que nous apprenions, que nous réapprenions à cohabiter avec cet animal qui est revenu, je le rappelle, naturellement dans notre pays. Ce n'est pas une réintroduction. Et il se trouve que nous avons des modèles en Italie qui montrent que cela est possible. Après, il faut une forte volonté là-dessus. Et je sais qu'il n'y a pas de réponse simple. C'est sûr que quand on parle à un... Moi, j'ai de bons amis éleveurs. Quand on parle à des copains qui viennent de perdre des brebis, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et d'insupportable. Mais le fait que la faune sauvage soit de retour dans nos montagnes ne peut pas être considéré comme une mauvaise nouvelle. Donc je pense qu'il faut trouver une solution équilibrée et que cette solution doit être trouvée avec les éleveurs eux-mêmes.
Christophe Castaner, une réponse équilibrée pour le loup ? Plus prélevé ou pas ?
Monsieur Walter, à mon avis, invente l'eau tiède sur certains sujets tout à l'heure, sur cette idée, effectivement, dans les étudiants en médecine qui puissent être financés en échange d'un engagement pour venir travailler sur un territoire. C'est bien. Ça existe déjà. Ça s'appelle le contrat d'engagement de service public avec l'obligation ensuite d'aller travailler dans une zone sous-dotée, l'équivalent du temps pendant lequel l'État vous a accompagné, vous a rémunéré. C'est un peu pareil sur le loup. Moi, j'entends qu'il faut aider les éleveurs à se protéger. Il se trouve que ça fait bien 10 ans qu'on le fait. On mobilise à peu près 40 millions d'euros par an pour qu'ils se protègent. J'entends la remarque sur laquelle les éleveurs devraient organiser les estives autrement. Je peux vous assurer que depuis 20 ans, ça a totalement transformé les estives et qu'elles n'ont plus rien à voir et qu'aucun éleveur en estive ne rentre pas tous les soirs ces moutons dans des parcs fermés, sécurisés, protégés qui s'allument la nuit en cas d'attaque du loup ou de présence du loup. Tout ça, c'est la réalité. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, les éleveurs souffrent, qu'on n'a plus d'installation d'éleveurs dans notre territoire, qu'on n'arrive pas à fournir la demande en agneau de Sisteron à l'abattoir de Sisteron et qu'il y a une tension extrêmement forte. Je fais partie de ceux, c'est moi qui l'ai piloté, qui ont convaincu le gouvernement, c'était il y a 10 ans maintenant, de commencer à assumer des tirs de prélèvement. Quand j'ai été élu député, j'ai pris la présidence du groupe loup. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, était venu et pour la première fois avait annoncé qu'on allait tuer un loup. On a mis en place des plans de prélèvement pour une raison simple. C'est que le loup se reproduit en moyenne entre 19 et 22% chaque année. Et que Il était présent dans 7-8 départements quand j'ai pris mes responsabilités sur ce dossier. Il est présent aujourd'hui dans 50 départements. Il est présent partout. Et que la cohabitation n'est pas possible, sauf à réapprendre au loup à avoir peur. C'est exactement ce que font les Italiens, avec des mesures qui sont offensives et qui permettent, par exemple, et ça n'est pas le cas aujourd'hui et je veux me battre pour obtenir ça, que les éleveurs, en présence du loup, s'ils voient le loup à proximité qui vient vers le troupeau, aient le droit de se défendre et le droit de tirer.
Ça, c'est
ça
un
n'est
mythe,
pas le cas.
Castaner.
Ah non, c'est pas un mythe.
De voir le loup.
Ah mais bien sûr que non, c'est pas... Alors interrogez les éleveurs aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand j'ai pris mes responsabilités, j'ai passé 3 jours dans le parc du Mercantour à tenter d'observer le loup avec les responsables de l'ONCFS, j'en ai pas vu. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où vous n'avez pas quelqu'un dans les Alpes de Provence qui peut vous raconter avoir vu le loup. Et donc du coup, je pense qu'il faut renforcer encore les mesures de protection des troupeaux et faire en sorte que l'éleveur puisse, si un loup arrive, attaquer. Mais je ne prends évidemment pas l'éradication du loup. On a aujourd'hui une espèce qui est au moins à 500 présence en France, ce qui veut dire que l'espèce n'est pas menacée et qu'en fonction de ce chiffre-là, on peut progresser sur le nombre de loups à prélever. Il reste un point de discussion, notamment avec les professionnels agricoles. Ils contestent ce chiffre et nous avons décidé que pour évaluer la présence du loup, on allait aussi le faire avec eux. Je pense que travailler ensemble et pas s'opposer les uns les autres, c'est absolument essentiel.
Parlons de la lavande. Parlons très très rapidement de la lavande, s'il vous plaît, Jean-Luc.
Oui, après la faune, la flore, si vous permettez. Le secteur de la lavande est actuellement en tension. Le dépérissement avec la maladie de la cicadelle, entre autres. La législation européenne qui évolue également, c'est tout un pan économique de notre secteur qui est en danger ou qui se pose question. Comment comptez-vous agir ?
Léo Walter.
Alors, il y a une question qui est posée, c'est celle de la législation européenne. Effectivement, nous, ça nous semble une absurdité hein, d'imposer ces nouvelles réglementations aux cultivateurs de lavandin et de lavande. Donc ça, nous battrons contre cette situation-là. Après, sur le reste, les cultivateurs subissent la même chose que les autres agriculteurs, hein, c'est-à-dire les conséquences de l'inaction climatique. Et donc, il me semble qu'il y a à passer, alors je l'ai entendu tout à l'heure, donc j'en suis très heureux, nous allons passer tous ensemble le turbo sur cette question-là, de manière à accompagner les agriculteurs qui subissent déjà les conséquences du réchauffement climatique et puis surtout à changer véritablement de braquet pour contrer ce que nous annonce le GIEC sur les 3 ans à venir.
Christophe Castaner, là aussi je vais vous demander de passer le turbo par rapport à cette question de la lavande.
Le turbo, mais là je rajouterai encore un troisième mauvais point pour la question des lavandiculteurs, c'est l'effondrement des cours. Cette année, une très grave préoccupation chez nos producteurs qui ont fait ça en diversification supplémentaire et qui sont confrontés à ça. La directive Riche, contrairement à Léo Walter, moi je la soutiens parce que c'est la meilleure information des consommateurs sur tous les produits qui sont à risque. Et la transformation de la lavande peut être considérée comme à risque et donc il ne faut pas jeter cela en discussion. Par contre, et nous travaillons avec la profession, on a mis en place un groupe de travail qui est piloté par Patrice Delorence de la DRAF pour obtenir de l'Europe la compréhension de ce que nous faisons sur le plateau de Valensole notamment. Et je ne suis pas inquiet au moment où on se parle de l'application de la directive Riche sur nos lavandes. Mais il nous faut sur ces sujets aller plus loin. Et vous avez évoqué, M. Icard, par exemple, la question de la cicadelle. Moi, j'ai noté que dans les propositions, dans les 650 propositions de la France Insoumise et de la NUP, il y avait la fin des pesticides. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut diminuer les pesticides dans notre pays. On est tous d'accord pour dire que c'est mal les pesticides. D'ailleurs, en 5 ans, on a diminué 90% de l'usage des pesticides les plus graves qui existent dans notre pays. Mais ce que je sais, c'est que si on dit du jour au lendemain ou même dans le quinquennat qui vient, on supprimera les pesticides, on tue la filière de la lavande, on tue la filière de l'amande qui est concernée aussi par la cicadelle qu'évoquait à l'instant Jean-Luc Icard. Et moi, ma ligne, c'est... On ne peut interdire l'usage de pesticides qu'à la condition qu'il y ait des solutions de substitution pour ne pas empêcher nos agriculteurs, nos paysans de travailler. Y compris dans le bio qui utilise des pesticides.
Alors je voudrais juste lire la proposition qui est dans notre programme, hein. C'est planifier la sortie progressive des engrais et des pesticides de synthèse. Et donc effectivement, il faudra le faire tout au long du quinquennat et l'accompagner. Par contre, nous demandons l'interdiction immédiate des plus dangereux, le glyphosate et les néonicotinoïdes, yeah. Qui l'avaient été et qui ont été réinstaurés par ce gouvernement.
Non, c'est faux.
Pas le glyphosate, les néonicotinoïdes.
Alors, uniquement, alors on va prendre cet exemple simple. J'ai porté ce texte. La betterave et la filière de betterave sucrière, 40 000 emplois, allait disparaître totalement parce qu'elle avait la jaunisse et on n'aurait plus eu de culture de sucre dans notre pays au niveau de la betterave. Qu'est-ce qui serait passé ? On aurait perdu 40 000 emplois, une filière. Par contre, on aurait continué à produire en Allemagne et on aurait acheté du sucre, hein, à moins qu'on décide de plus acheter de sucre. Et donc oui, on a accepté que l'on puisse traiter la betterave contre la jaunisse pendant 3 ans, avant la floraison, et uniquement la betterave. C'est ça la réalité. Et donc il ne faut pas mélanger tout et son contraire. Et c'est la même chose sur le glyphosate. On a diminué de 50% l'usage du glyphosate en 5 ans. Ça ne suffit pas. Mais on a accepté que partout où il n'y a pas de solution concrète pour éviter de tuer l'agriculture, et bien du coup, on aille vers un chemin qui nous sorte du glyphosate. Et on investit massivement dans la recherche pour se débarrasser du glyphosate, qui est un produit dangereux, je l'assume de le dire. J'ai été le premier maire de France à Forcalquier à interdire l'usage du gaucho et du régent, et j'ai été envoyé au tribunal par un préfet de l'époque pour avoir fait